Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
Salut tout le monde, bienvenue à l'émission à surveiller dans quelques instants le point de presse sur la pandémie qu'on va bien sûr diffuser. On le sait, là, on avait reconduit les mesures sanitaires dans quelques régions au Québec, des régions qui préoccupaient de par le nombre de cas, les variants aussi. On avait reconduit ça jusqu'au 3 mai. Là, tout porte à croire qu'en zone rouge, on devra encore patienter. Les zones rouges foncées, comme on les appelle, la région de la capitale nationale, l'Outaouais, Chaudière, Appalaches, on lèverait pas, si on veut, les mesures. Ce qui a circulé, c'est qu'au niveau des écoles primaires, on devrait par contre rouvrir là, les écoliers qui devraient reprendre le chemin de l'école le 3 mai. Mais bien entendu, ça reste à confirmer. On va attendre d'être au point de presse dans quelques minutes. Les ados, ça, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous dire à ce sujet-là. Ceux-ci devraient rester en école à distance dans les zones rouges foncées. Les commerces non essentiels aussi pourraient devoir rester fermés encore quelques temps. Et la fameuse question du couvre-feu aussi, là, on semble pas vouloir revenir au couvre-feu à 9h30 dans ces zones-là, ni à Montréal par ailleurs. Ce qui est assez surprenant, pas qu'on lève pas les mesures d'urgence là dans les régions qui sont inquiétantes. Plusieurs experts pensent que les mesures d'urgence ne devraient pas être levées. Mais à un moment donné, à Montréal, où ça va bien, là, aujourd'hui, quand même, on a un nombre de cas qui est encore sous la barre des 1000. On est à 899 cas. On a 14 décès de plus, malheureusement. 3 patients de plus aux soins intensifs. Mais tout de même, au niveau des cas, on se maintient sous la barre des 1000. Si demain, on est encore sous la barre des 1000, j'ai de la misère à concevoir comment le gouvernement va pouvoir faire gober à la population de poursuivre ce couvre-feu à 20 heures. C'est clair qu'on peut toujours tabler sur le fait que ça marche. C'est-à-dire, regardez, on a le couvre-feu à 20 heures, les cas ont baissé, mais à un moment donné, ça va nous prendre des objectifs. Donnez-nous des objectifs. Puis c'était d'ailleurs en ce sens-là là, que Madeleine Plotte-Côté chroniquait hier dans le Journal de Montréal. Elle sera un peu plus tard à l'émission pour nous en parler. Mais Isabelle Haché aussi, elle a dans ce sens-là un peu ce matin par rapport à la vaccination. En passant, mon rendez-vous est demain à 8h35. Donc, j'ai très hâte de revenir en ordre pour vous expliquer comment ça s'est passé, comment je me sens aussi. Isabelle Haché qui commençait sa chronique en disant qu'elle avait eu des effets secondaires, mais qu'à tout prendre, elle prenait les effets secondaires. Elle préférait être vaccinée parce qu'au bout de 2 jours, finalement, tout était revenu à la normale. Mais elle touchait un point important, un point que touche Madeleine Plotte Côté aussi dans sa chronique. Puis c'est une réflexion qu'on partage, que plusieurs partagent en ce moment. Puis je dois dire que je suis assez d'accord. Là, c'est le fait de se dire que si on est sur cette impression que nos efforts vont rien changer, que le nombre de cas va rien changer, que la vaccination ne changera rien au niveau de nos libertés, ben ça peut en décourager quelques-uns. Ça peut décourager certaines personnes d'aller se faire vacciner. Ça peut décourager certaines personnes de suivre les mesures sanitaires. Donc, il faudrait qu'il soit question d'objectifs. On s'en va au point de presse.
Monsieur Legault, la parole est à vous.
Oui, merci. Bonjour tout le monde. Avec le docteur Arruda puis le ministre de la Santé, on a passé au moins 2 heures hier soir avec des experts de l'INSPQ, de l'INES, de la santé publique, à regarder les données comme il faut, région par région. Et, bonne nouvelle, les mesures fonctionnent et la situation s'améliore. Donc, la situation s'améliore, entre autres, avec une baisse du nombre de cas, un plafonnement, puis dans certains endroits, même une baisse du nombre d'hôpitaux, d'hospitalisations. Donc, évidemment, ça nous rend optimistes, mais un optimiste prudent. On est vraiment en train de sortir du tunnel. Il faut faire attention pour pas se faire frapper par le train. Donc, il faut s'assurer, oui, on va vous annoncer aujourd'hui quelques assouplissements, mais il faut vraiment que ça se fasse graduellement. Surtout quand on regarde ce qui se passe ailleurs, vous le voyez, en Ontario, sont rendus hier à 3265 cas, alors que nous, on a eu 899. En Ontario, sont rendus à 2336 hospitalisations, nous, on est à 667. Donc, on voit que ça peut exploser rapidement. puis il n'y a pas besoin d'aller loin pour le voir. Puis il y a quand même des liens entre le Québec et l'Ontario. Donc, faut être extrêmement prudent pour la suite des choses. Je vais y aller région par région. Commençons par les trois régions qui continuent de nous inquiéter le plus. D'abord, la région où c'est le plus difficile, c'est l'Outaouais. En Outaouais, oui, il y a eu une baisse du nombre de cas, mais quand on regarde le taux de tests positifs, il y a quand même une amélioration. Là. On est passé de 10,8% à 8,5%. Mais il faut comprendre, la moyenne au Québec, là, c'est maintenant 2,9. Donc, l'Outaouais est à 8,5. C'est vraiment la région où il y en a le plus. Bon, déjà, on avait aussi un réseau hospitalier qui était serré. Actuellement, on a vraiment atteint la limite du nombre de lits qui était prévu pour les patients COVID. Donc, il y a des patients qui ont été transférés dans les Laurentides. Donc, il y a vraiment là aucune marge de jeu en Outaouais. C'est pour ça qu'en Outaouais, je vous annonce qu'on va prolonger les mesures d'urgence pour une semaine additionnelle, donc du 3 mai au 9 mai. Dans Chaudière-Appalaches, le taux de tests positifs est encore élevé. On a eu une amélioration. On est passé de 7,5% à 6,6% au cours de la dernière semaine. Mais il faut comprendre là que les cas ou une grande partie des cas sont concentrés en Beauce et dans les Etchemins. Donc, c'est très difficile pour les hôpitaux dans ce coin-là. On a été obligé de transférer des patients à Sherbrooke, à Rimouski. Donc, il y a vraiment plus de place là dans le système hospitalier dans Beauce-et-Chemin. Évidemment, il y a la région juste à côté, Capitale-Nationale, où on a beaucoup d'hôpitaux, où la situation s'améliore de façon importante. Dans Capitale-Nationale, au cours de la dernière semaine, le taux de tests positifs est passé de 6 à 4,2%. Donc, j'en profite pour dire un énorme merci à tous les citoyens de la Capitale-Nationale qui ont sûrement fait des efforts là, dans les dernières semaines et ça donne des résultats. La situation, il y a encore un peu de lits disponibles, pas beaucoup, mais ce qui est encourageant, c'est quand on demande à nos experts de regarder des projections pour les deux, trois prochaines semaines, prévoit qu'à Québec, le nombre d'hospitalisations devrait baisser dans les prochaines semaines. Donc, je vous annonce que on va se permettre d'ouvrir les écoles primaires dès lundi prochain, donc le 3 mai, dans tous les centres de services de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, sauf les écoles du centre de services Beauce-et-Chemin et les écoles de la MRC Bellechasse, qui sont dans le centre de services des Collines, mais qui est aussi là très affecté. Puis pourquoi on fait ça dans Beauce et les Etchemins? Ben parce que il y a beaucoup de transmissions communautaires, puis il n'y a plus vraiment aucune marge de manœuvre dans le système hospitalier. Par contre, dans les deux régions, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, on va garder les autres mesures. Ça veut dire les écoles secondaires, malheureusement, vont rester fermées. On va garder le couvre-feu à 8 heures et on va garder les commerces non essentiels fermés. Donc, on y va vraiment graduellement en ouvrant seulement les écoles primaires. Bon, pour Montréal et Laval, toujours pas l'explosion attendue. Donc, nos mesures fonctionnent vraiment bien. À Montréal, le taux de test positif est passé de 3,8% à 3%. Puis à Laval, il est passé de 3,4% à 2,9%. Donc, on voit là vraiment que, la situation s'est améliorée, rendue à un niveau beaucoup plus bas. En plus, il y a une marge de manœuvre du côté des hôpitaux. Hein, même les docteurs qui sont responsables de ça, Christian leur a posé plusieurs fois la question, puis ils nous disent il y a une marge de manœuvre. Et en plus, les experts de l'INESP, l'INESPQ, prévoient que dans les prochaines semaines, il va continuer d'avoir une baisse du nombre d'hospitalisations à Montréal et Laval. Donc, je vous annonce que dès lundi prochain, le 3 mai, à Montréal et à Laval, on va faire passer le couvre-feu de 8h à 9h30. Donc, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Pour les autres régions, on peut dire que la situation est sous contrôle pour l'instant. Puis je dis bien pour l'instant parce que on va le répéter, avec les variants, faut être très prudent. Il n'y a aucune région qui est à l'abri d'une explosion de cas. Pendant ce temps-là, évidemment aussi, ce qui nous aide, c'est qu'on continue de vacciner. Ça se passe bien de ce côté-là. Depuis ce matin, les personnes qui sont handicapées ou les proches aidants peuvent se faire vacciner. Par contre, je veux passer un message aux personnes handicapées puis aux proches aidants. On n'a pas vu beaucoup d'inscriptions ce matin. Puis je veux vous dire que bientôt, le ministre de la Santé va ouvrir la vaccination à tous les Québécois. Donc, c'est important, là, si vous voulez passer devant les autres, si vous voulez, puis je pense que c'est normal que les personnes handicapées et les proches aidants passent devant les autres. Puis c'est la même chose à partir de demain pour les femmes enceintes. C'est important de s'inscrire rapidement avant qu'on ouvre la vaccination de masse. Peut-être un sujet que j'ai beaucoup entendu depuis quelques jours, entre autres certains syndicats, Québec solidaire, qui demandent qu'on donne un bloc de 4 heures de congés payés à tous les employés. Bon, d'abord, c'est important de dire qu'on ne sait pas comme une élection là qui se passe juste un jour. Dans toutes les régions, il y a des endroits où on peut se faire vacciner le soir, les fins de semaine. On a envoyé le message aussi au ministère puis au réseau d'être flexible, d'être accommodant. Puis je fais un appel aussi à tous les employeurs privés, s'il vous plaît, soyez flexibles, soyez accommodants. Mais il y a certains secteurs où c'est plus difficile. Prenez par exemple les enseignants. Tout le monde sait au Québec qu'on manque d'enseignants. Donc, c'est pas facile de trouver un enseignant remplaçant. Donc, on veut pas non plus priver les enfants d'enseignement. Donc, c'est pour ça que je dis flexible, accommodant. Je pense que si on travaille tous ensemble de bonne foi, on va être capable de continuer à donner les services que je dirais entre guillemets essentiels et s'assurer que tout le monde se fasse vacciner. Bon, évidemment, il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quand est-ce qu'on va ouvrir quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire cet été? Donc, moi aussi, j'ai hâte. Le ministre de la Santé aussi a hâte. Juste vous dire, on est en train, avec la santé publique, de se faire une séquence, là. Probablement qu'on sera pas capable de vous donner des dates pour chaque élément de la séquence, mais je pense que on peut regarder, puis c'est ce qu'on fait, on regarde des exemples où il y a des taux de vaccination élevés, par exemple en Israël, au Royaume-Uni, pour utiliser ça comme modèle, puis être capable de répondre le plus possible à qu'est-ce qui s'en vient. Évidemment, notre système d'abord va être en place, puis va rester en place. Donc, il y a des zones qui vont passer du rouge au orange, puis du orange au jaune, puis du jaune au vert. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on va pouvoir aller voir un spectacle, aller dans un festival? Est-ce qu'on va pouvoir se rassembler? Combien de personnes on va pouvoir se rassembler cet été, au mois de juin, etc.? Je comprends là, que les gens voudraient une indication. La réponse facile, c'est que c'est trop tôt pour le dire, mais on insiste fort quand même pour au moins avoir une séquence. Donc, je termine en vous disant, on est en train de gagner la bataille contre la troisième vague. On a les trois conditions gagnantes, que je pourrais dire, là, qui sont réunies. D'abord, la chaleur. On sait que le virus aime pas la chaleur, puis on peut s'attendre à ce que dans les prochaines semaines, les prochains mois, va faire de plus en plus chaud. On arrive aussi à la fin de l'année scolaire, donc les universités, ensuite les cégeps, ensuite les écoles primaires et secondaires. Puis la vaccination va bien. On est à 33%. On est deuxième au Canada tout de suite après la Saskatchewan. On est avec un taux plus élevé que les grandes provinces comme l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Donc, ça va bien, mais on n'a pas l'espèce d'immunité communautaire qui est nécessaire pour être vraiment capable d'ouvrir. Donc, on est très confiant. Puis le ministre de la Santé est très confiant qu'on va atteindre notre objectif que 75% des personnes éligibles soient vaccinées d'ici le 24 juin. Puis juste vous donner un ordre de grandeur ou une idée, on va commencer l'été 2021 en bien meilleure position que l'été 2020 à cause de la vaccination. Donc, quand même, il y a lieu d'être optimiste. On est en train d'arriver au bout du tunnel. Encore une fois, je dis merci à tous les Québécois qui ont fait des efforts pendant toute cette année, mais faut être encore prudent pendant quelques semaines. Ça serait pas le temps de se faire frapper par le train en sortant du tunnel. Donc, il nous reste encore un petit bout de chemin à faire dans le tunnel et on arrive bientôt à destination. Merci beaucoup.
Hey, ce sont quand même des très bonnes nouvelles. Bon, peut-être moins pour certaines régions, mais on sent que ça s'en vient quand même, même pour ces régions-là, là, qu'on est en train de voir un peu le bout du tunnel. Je me sens vraiment toute ragaillardie de ces annonces-là. Le premier ministre qui a commencé son point de presse en disant qu'il s'était réuni hier soir pendant des heures avec l'INSPQ, l'INES, la santé publique, et que le constat, c'était que la situation s'améliorait au Québec. C'était le constat qu'on pouvait faire de façon globale, qu'on plafonnait, qu'on avait même une baisse au niveau des hospitalisations dans certains secteurs. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux mesures sanitaires, bien évidemment, et aussi à la vaccination qui, bon an, mal an, va quand même assez bien. Je pense que, par contre, il faut insister sur le fait que c'est un optimisme prudent, hein, au niveau du gouvernement. Il faut faire attention. Puis là, les annonces concernant les régions où c'était plus préoccupant ont suivi, là. C'est-à-dire, pour la capitale nationale, on a une baisse des tests positifs. On prévoit une baisse d'hospitalisation avec les projections qu'on a faites. Donc, telle qu'on l'avait anticipé, les écoles primaires qui vont rouvrir dès lundi le 3 mai dans tous les centres de services de la capitale nationale, sauf dans le secteur Beauce-et-Chemin et MRC de Bellechasse pour la région de Chaudière-Appalaches. On le sait, ça va bien, sauf dans deux secteurs, là, on en parlait, où il y a beaucoup de transmission communautaire. C'est problématique, donc ils peuvent pas rouvrir les écoles. Les étudiants du secondaire aussi devront rester en école à distance pendant quelques bouts. En Outaouais aussi, pas vraiment de marge de manœuvre, là. Donc, on prolonge les mesures sanitaires une semaine de plus, donc jusqu'au 3 mai, dans ces trois régions, sauf pour l'ouverture des écoles, comme je viens de le mentionner. Mais la grande nouvelle, quand même, puis je veux pas faire ma fille montréalo-centrée, là, mais quand même, le couvre-feu à Montréal faisait beaucoup jaser, notamment à cause de la baisse de cas. Parce que la situation était stable et parce qu'on n'a pas vu non plus une grande augmentation là, suite aux inquiétudes qu'on avait eues sur les gens qui se réunissaient dans les parcs. T'sais, il y avait beaucoup de monde, on s'inquiétait. Là, ça continue d'aller bien. On a une baisse de tests positifs. Il y a de la vaccination aussi en masse, ça avance. On a une marge de manœuvre dans les hôpitaux. Donc, le couvre-feu va être... on va avoir une extension. Hein, il demeure à 9h30, mais on a une extension jusqu'à 9h30. Ça commence lundi prochain, donc le 3 mai. Yeah!
Au bout du tunnel.
C'est ça.
On voit lumière au bout du tunnel.
Sébastien est en feu. Non, mais pour vrai, quand on a entendu ça, on a fait des petites danses de victoire et dans le studio et dans la régie. Puis on met aussi la table sur ce qui s'en vient cet été. Hein. Le premier ministre qui a dit quand même qu'on est en train de faire une espèce de scénario, là, pas capable de nous donner des dates en ce moment sur qu'est-ce qui va être possible de faire et quand ce sera possible de le faire. Mais chose est certaine, on s'avance dans une bien meilleure posture cet été que l'été passé. On n'avait pas de vaccin. Donc voilà, ce sont d'excellentes nouvelles. En tout cas, moi, ça me fait appréhender cette semaine-là plus positivement que négativement. La semaine passée, là, l'ambiance était assez morose, merci. Et puis bon, c'était pas facile. Puis je le voyais aussi dans les messages que je recevais de la part des auditeurs. Les gens étaient tannés, les gens étaient écœurés. Et là, les gens voulaient avoir des bonnes nouvelles, voulaient avoir aussi des projections de ce qui allait se passer. Donc on continue là d'aller dans la bonne direction. Bon, c'est sûr que il se passe toujours des affaires pas le fun. Là, on a un premier décès au Québec d'une thrombose liée au vaccin. Puis l'idée là-dedans, c'est pas de faire peur aux gens par rapport au vaccin. Là, moi, je veux toujours rappeler que plus de bénéfices à se faire vacciner que de risques si on prend le pourcentage des complications versus la protection que nous offre le vaccin. Pour moi, c'est encore sans équivoque là, ça remet pas en question rien. Demain, j'irai me faire vacciner, puis je suis sincère avec vous autres là. Je vous dis pas que pendant que je vais me faire vacciner, j'aurai pas une petite pensée là. Je suis super hypochondriaque dans la vie là. Je passe ma vie sur Doctissimo. Je sais toutes les affaires qu'il faut pas faire là sur internet, les affaires qu'il faut pas lire pour paniquer, pour pas se diagnostiquer des cancers là, ça c'est moi ça. Fait que demain en me faisant vacciner, je vais être contente, mais en même temps, il va y avoir une petite partie de moi qui va frissonner. Est-ce que ça va être les effets secondaires du vaccin? Non, ça sera sûrement mon hypochondrie, mais je persiste à dire que c'est la meilleure chose à faire. Et c'est quoi? C'est quoi l'extrait ça? C'est notre passeport vers la liberté. Le vaccin, il trouve pas. Mais je précise au passage que la personne qui est décédée malheureusement d'une thrombose, elle a reçu le vaccin AstraZeneca. On connaît pas son âge, on sait pas si c'était une femme ou un homme, mais bon, évidemment, on va y revenir. Voilà, donc au travers des bonnes nouvelles, c'est un peu dommage qu'on doive annoncer ça. Mais bon, il faut continuer à avancer. Ça va bien, les cas baissent, le couvre-feu est reporté à 9h30 à Montréal et dans la région de Laval à compter de lundi prochain. Les écoles qui rouvrent aussi dans la région de Québec, aussi en Chaudière-Appalaches, en Outaouais, sauf pour ce que j'ai dit, le Beauce-et-Chemin, non, on pourra pas rouvrir la MRC Bellechasse. Puis les étudiants du secondaire, je pense à eux. Petite pensée pour eux, pour vrai, parce que je sais qu'ils commencent à trouver ça long. M'écrivent eux autres aussi pour me dire qu'ils sont un peu écœurés de l'école à la maison.
Quand c'est votre tour de vous faire vacciner, ben allez vous faire vacciner. C'est comme ça qu'on va se donner un bel été. Je compte sur vous.
Puis par rapport à la vaccination, là, ça me fait penser les demandes là qui ont été faites récemment sur le bloc de 4 heures de congés payés pour aller se faire vacciner. Moi, je trouvais que ça avait pas rapport, évidemment, parce que bon, il y a plein de plages horaires, on peut y aller n'importe où. Puis c'est un peu ce que le PM dit là, c'est pas comme une élection là où on a un jour pour aller voter. Là, t'as plein de temps, t'as plein de possibilités là. Tu peux aller te faire vacciner le matin, tu peux aller te faire vacciner le soir, la fin de semaine. Donc à un moment donné, un bloc de 4 heures pour aller se faire vacciner là, je pense qu'on peut passer un autre appel.